Merci au groupe Louange de nous avoir entraînés dans la louange, d'avoir élevé ce nom de l'Éternel. Je crois qu'on ne prend pas toujours conscience de ce que cela veut dire. Le mot éternel qui est dans notre Bible, c'est le nom de Dieu qui a été traduit de cette façon-là. Ça traduit le tétragramme imprononçable YHVH qui a été donné à Moïse. Et on raconte que lorsque les Septante ont traduit la Bible, chaque fois qu'ils arrivaient à ce nom, ils jetaient leurs plumes à l'époque. Donc ça remonte, je ne sais plus en quelle année, quelques années avant la venue de Jésus-Christ ou quelques années après, je ne sais plus. Donc une plume, ça valait une fortune. Ils jetaient leurs plumes, ils se changeaient, ils se lavaient pour se purifier. Ils prenaient une plume neuve, ils écrivaient ce nom. Ils jetaient la plume, ils allaient se purifier pour écrire le reste. En l'honneur de YHVH, de ce nom de l'Éternel. Nous, on lui donne pas la même valeur, mais le nom, c'est la personne. Et ça montre quelle référence, quelle révérence avaient ces hommes par rapport à ce nom de l'Éternel, ce nom de Dieu. Celui qui est, je suis celui qui est, je suis celui qui sera, je suis celui qui ne cessera pas d'être. C'est ce nom-là que l'on loue quand on chante le nom de l'Éternel. Alors maintenant, on va écouter sa parole au travers de Diana, qui l'aura sans doute un petit peu trafiqué, comme nous faisons tous, puisque nous ne sommes pas parfaits, hein. Donc on donne toujours un petit bout de nous-mêmes. Alors j'ai demandé à Diana Kaufmann de se présenter courtement, comme ça, parce que il y a des nouvelles personnes dans notre communauté qui ne la connaissent pas. C'est une vieille de la vieille parmi nous.
Oui.
Je vais prier pour, plus pour nous que pour toi. Ben, Seigneur, moi je te remercie parce que Diana a accepté de venir donner un message. Et moi je pense qu'elle a passé du temps dans la préparation de ce message, dans l'écoute de ta parole, de l'écoute de l'esprit. Et je te remercie, Seigneur, pour ce temps consacré. Et je suis sûr que ça lui a déjà fait énormément de bien. Et maintenant, c'est à nous, Seigneur, que cela doit faire du bien. C'est nous qui devons grandir en entendant cette parole. Et on demande que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions nous réjouir d'entendre ce que nous entendrons. Oui, béni soit ton nom, Seigneur, et béni Diana, ainsi que son époux, ses enfants. Et je te prie, Seigneur, aussi de garder cette famille, de la protéger. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà, bonjour à tous. Donc, quand on m'a proposé d'apporter le message, on m'a dit qu'il faudrait une femme qui soit mère pour apporter le message aujourd'hui. Donc, me voilà avec mes petites réflexions trafiquées de la parole. J'aimerais remercier le conseil pastoral qui m'a invitée pour sa confiance, parce qu'en fait, personne ne sait de quoi je vais parler. Et puis, je voulais dire que je trouve que c'est une grande force de cette communauté d'avoir de temps en temps des intervenants différents. Je pense que c'est comme ça que l'édification mutuelle se fait. On partage, on s'interpelle, on se confronte, on s'interroge, on entend d'autres points de vue et on avance ensemble. Je suis l'heureuse mère de 4 fils que vous connaissez peut-être. Ils sont dissimulés parmi vous ce matin. Ils ont entre 23 et 27 ans. Et puis, ils sont encore tous sous notre toit pour des raisons économiques. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Mon mari est ici aussi. Donc, on est 6 ici. Autant vous dire que je suis sous une écoute attentive et critique. C'est ma 27e fête des mères, et pour faire court sur cette fête, peut-être que je vais me présenter brièvement, c'est vrai, comme l'a demandé Eric. Donc, je suis née il y a 58 ans, je suis catholique au départ, j'ai été baptisée, confessée, communiée catholique, et vers 13-14 ans, j'ai bifurqué dans l'église réformée, vu à tous mes questionnements, et j'y suis restée dans mes études. À Genève, j'ai participé au groupe biblique universitaire, qui a été vraiment une belle ouverture, et j'ai fait de belles découvertes. Et puis, comme profession, que dire? Quand on est maman, on a tendance à dire on est sans profession, mais moi j'ai envie de dire quand on est maman, on a 100 professions. J'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée, donc vous voyez que je suis jamais vraiment sortie de ce rôle de mère. Et puis là, donc, pour ma 27e fête des mères, je voulais juste vous dire, pour faire court, que la fête des mères, pour moi, c'est une fête impossible. Comment voulez-vous fêter les personnes qui organisent toutes les invitations, toutes les fêtes de famille, les anniversaires, jusqu'au pique-nique, sans leur indispensable participation? Et comment est-ce qu'on peut croire qu'elles peuvent rester assises toute une journée? Comment voulez-vous mettre en valeur les qualités des mères qui sont la disponibilité, la bienveillance et le service dans l'ombre? Parce qu'on a quand même un travail assez original. On ne voit pas quand il est fait, on voit seulement quand il n'est pas fait. Alors, essayez de nous mettre en avant, c'est peine perdue parce qu'en général, on assure les arrières. On a bien compris notre rôle central et porteur dans nos familles, c'est là notre récompense et cela nous suffit. Cette fête m'a amenée tout naturellement à m'intéresser à Marie, la mère de Jésus. Quelle place occupe-t-elle dans les évangiles? Pourquoi les réformés ont tendance à bouder ou à négliger Marie, une jeune fille de Palestine, fiancée à un homme de la lignée de David? Et comment les catholiques en sont arrivés à cette dévotion disproportionnée, à cette adoration de la Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, tout en majuscule? Marie reste le point d'achoppement le plus important entre catholiques et protestants. C'est un sujet de litige récurrent où l'on n'arrive pas à se mettre d'accord. J'ai baigné dans le catholicisme jusque vers 13-14 ans et je me reconnais dans ceux qui l'ont laissé un peu de côté. Et j'aimerais y remédier aujourd'hui sans parti pris, sans jugement. Nous disposons de peu d'éléments sur Marie. Ce sont surtout Luc et Matthieu qui en parlent. Marc, un peu, et Jean à deux reprises seulement. Vous rappelez que les évangélistes ont écrit pour conserver la bonne nouvelle du royaume du salut à travers le ministère de Jésus, pour attester et témoigner. Donc ce ne sont pas des historiens, mais ce sont d'abord des témoins. Les femmes de cette époque n'avaient pas beaucoup de poids dans la vie publique. C'est Jésus qui leur a accordé de l'attention, qui leur a donné une place et une parole. Et le chemin était long jusqu'à ce que, ici aujourd'hui à Villars, une femme arrive à amener un petit message. Je suis partie sur les traces de Marie sans trop savoir où j'allais et ce que j'y trouverais. J'y suis allée avec ma logique féminine. La logique féminine, c'est un sujet, on entraîne un autre. On sait où on est arrivé, on ne sait pas d'où on est parti, mais le parcours était intéressant. Alors moi, je me suis perdue quand j'ai voulu aborder le catholicisme et j'en suis restée du coup à une balade à travers les Écritures et j'en ai rapporté, on dira pour la circonstance du jour, quelques fleurs pour en faire un bouquet disparate. Ça vous fera plusieurs thèmes en même temps, mais on pourra quand même esquisser un portrait, quoique incomplet et partiel de Marie. Et on effleurera un tout petit peu le catholicisme. Les textes étant assez connus, je pense qu'on ne va pas tous les lire, mais on va commencer la promenade avec ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Vraiment. Marie, mère de Jésus, juste si on s'arrête à son rôle de mère, ça donne ceci, et ça fera le résumé de sa vie. C'est une jeune fille juive, vierge de Palestine, âgée entre 12 et 15 ans, qui voit sa vie basculer lors de l'apparition d'un ange. Il lui fait une annonce incroyable, elle sera enceinte de l'Esprit-Saint. Si Joseph l'avait dénoncée, elle aurait été lapidée, selon les usages, pour être enceinte sans que son fiancé l'ait approchée. Elle est en route pour Bethléem, en fin de grossesse. Pas vraiment le temps idéal pour voyager. Elle accouche d'un petit garçon sans être mariée, chez Luc, et dans un endroit peu propice. Des gens très différents, des bergers venant de nulle part, des mages venant de très loin, débarquent pour adorer son enfant. Elle ne saisit pas très bien ce qui se passe autour de lui. Pressentant un rival, Hérode cherche à tuer l'enfant. Et la voilà, jeune migrante, contrainte à fuir en Égypte, avec Joseph et l'enfant. Retour à Nazareth et quelques années d'accalmie, peut-être, pour éduquer son enfant, qui grandit en force et en sagesse. Joseph est devenu son mari entre-temps et lui donnera plusieurs enfants. Quand Jésus a 12 ans, elle vit une grosse angoisse de parents. Avec Joseph, ne retrouvons pas le garçon pendant plusieurs jours. Ensuite, elle passe par une souffrance indicible quand la mission divine de son fils tourne mal. Elle assiste impuissante à sa mort sur la croix dans une injustice criante, le pire supplice pour une mère. Puis, elle apprend sa résurrection. Après l'ascension, on la retrouve parmi les disciples et les frères de Jésus en train de prier dans la chambre haute, puis ses traces disparaissent. Une vie incroyable, mouvementée et difficile. Elle a assumé son rôle de mère jusqu'au bout, aimante, bienveillante, présente. Elle a fait preuve d'un grand courage et de persévérance. Elle force notre admiration, je crois qu'il faut le reconnaître. Mais qui en vit son sort? Qui aurait voulu être à sa place? Pour en retirer quelque chose de plus, je me suis dit qu'il fallait chercher ailleurs. Où a-t-elle puisé les forces pour tenir le coup? Et on trouve peut-être la réponse dans la suite du verset. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qui la gardent ou qui la mettent en pratique ou qui l'observent selon les traductions. Moi j'aime bien ce mot garder. Pas garder pour soi jalousement, mais garder en soi. Une parole qui fait corps avec nous, une parole qui nous habite de l'intérieur, qui nous travaille et qui colle à notre quotidien, qui nous accompagne partout. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En d'autres termes, n'enviez pas ma mère, mais ceux qui s'attachent à la parole. Et si on se replace dans le contexte de l'époque, cette phrase n'a l'air de rien. Mais Jésus pratique une ouverture formidable dans la conception de la maternité. Il fait sortir la femme d'un carcan traditionnel lourd et stigmatisant. La fécondité est une bénédiction, elle assure la descendance, la stérilité, une malédiction et un déshonneur. Et Jésus, en quelques mots, casse cette fatalité de la malédiction. Accéder à la parole et s'y tenir procure un bonheur plus grand encore que la maternité. Bonne nouvelle, et pour les femmes stériles, et pour les hommes. La réponse, heureux plutôt ceux, hommes et femmes. Pour les femmes qui sont mères, elles ne sont pas réduites à se satisfaire de leur rôle maternel. Elles peuvent aspirer à plus de bonheur encore, si c'était possible. Mais pour Marie, qu'est-ce que ça signifie dans son cas? Elle est du côté de la bénédiction déjà. Je crois pouvoir affirmer ici que ce verset me semble cerner le déchirement intime que Marie a dû vivre, ce tiraillement entre la fierté d'être mère dans la tradition, d'avoir un garçon et qui plus est le Fils de Dieu. Et le tiraillement entre cette fierté et l'appel à dépasser ce contentement de mère comblée, pour faire place à la parole de Dieu qu'elle doit serrer sur son cœur. Les difficultés et les incompréhensions rencontrées vont la contraindre à faire ce passage, progressivement, lentement, avec foi, pour s'ouvrir au « aimez-vous les uns les autres » et non pas seulement à « aime ton enfant ». Mais d'abord, pour tenir le coup. Elle a commencé très tôt le processus, quand l'ange lui fait l'annonce, dans Luc 1, 26, 38. Quand elle apprend qu'Élisabeth, stérile, est enceinte et reçoit cette phrase d'encouragement « Rien n'est impossible à Dieu », Marie accepte de servir le Seigneur sans trop savoir ce qui l'attend. Nous avons une jeune fille toute simple, croyante, au destin tout tracé, puisqu'on lui a déjà choisi un mari, qui accepte que Dieu fasse soudainement irruption dans sa vie. L'ange entra chez elle. Elle sort sciemment du projet des hommes pour entrer dans celui de Dieu. Elle est vraiment courageuse pour braver les usages. Elle a juste cette petite question pratique qui montre qu'elle a les pieds sur terre et qu'elle se prépare déjà au projet. Comment cela se fera-t-il ? Bonne nouvelle pour nous au passage, pas besoin d'être quelqu'un de particulier pour se mettre au service de Dieu. Le laisser entrer, elle dit « comment cela se fera-t-il » sont de son ressort, pas d'une autre. Arrêtons-nous aux noces de Cana, dans un texte magnifique qu'on ne va pas lire ici. Un texte que seul Jean relate. Marie y tient un rôle déterminant dans une position d'autorité qu'on n'a jamais vue jusque-là. Le miracle, vous vous en souvenez, il est extraordinaire. Mais le but, un peu futile, que la noce continue d'être arrosée de vin. Le dialogue Marie-Jésus est des plus étranges, un dialogue de sourds. Et je me permets de glisser un dialogue possible entre les lignes. C'est Marie qui commence avec un constat tout simple. Elle est l'initiatrice. Ils n'ont plus de vin. À toi de jouer. Jésus répond sur un registre relationnel, une phrase assez dure à entendre. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Pourquoi l'appelle-t-il femme ? Est-ce que cela te regarde ? De quoi te mêles-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Je sais ce que j'ai à faire et quand. » Puis il se parle par serviteur interposé, en lançant des ordres, et c'est Marie à nouveau qui commence. « Faites ce qu'il vous dira. » Ta dernière heure n'est pas venue, mais celle de ton ministère, oui, prépare-toi, c'est maintenant. Et je pense que Marie a dû recevoir quelque chose de l'ordre, d'une révélation pour garder une telle assurance. Remplissez d'eau ces vases, puisez maintenant. Tu as raison. Jésus obéit au coup d'envoi de cette femme et se lance. Et c'est effectivement le premier miracle que Jésus fait et qui le fera connaître dans toute la région. Et ses premiers disciples apparaîtront autour de lui, croyant en lui. Et je pense que là, nous sommes arrivés à un point culminant de la vie de Marie. On dirait que tous ces questionnements, vous souvenez, il y a 2-3 versets qui disent « Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur ». Son tiraillement entre mère charnelle de Jésus et servante de Dieu, tout ce temps de réflexion, tout ce temps vécu avec Jésus trouve comme un aboutissement. Le passage a eu lieu. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? On se demande là si Jésus n'est pas en train de lui demander de se positionner en tant que femme par rapport à lui. Et si elle n'est plus sa mère, que devient-elle ? On serait en mesure de proposer cette réponse sur les lèvres de Marie. Je crois en toi. Ce qui compte à partir de maintenant, ce n'est plus d'être ta mère, mais d'être devenue une femme croyante. Je crois en toi, j'ai reconnu en toi le Messie, l'envoyé de Dieu. Marie est la première croyante de Jésus. Le lien de sang est dépassé et la vue plus loin. Cela nous arrive à un autre épisode intéressant. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La famille de sang est trop étroite pour contenir l'amour de Dieu. Jésus lui donne de nouvelles bases. Il établit une nouvelle fraternité qui n'a plus rien à voir avec les liens de sang, le clan ou la classe sociale. La famille de Jésus s'étendra à tous les croyants. Et la nouveauté s'est bien propagée dans les églises. Ici, à Villars, je trouve qu'on sent bien ces liens de frères et sœurs dans une grande famille. Comme Marie et ses autres fils, nous comprenons l'invitation à élargir l'espace de notre tente, à ouvrir notre porte, à penser large, à aimer grand. En opposition à cet agrandissement de la famille, nous vient immédiatement un autre épisode dans Matthieu 20 à 28, la mère des fils de Zébédée, qui vient avec cette demande particulière. Est-ce que, quand tu seras dans ton royaume, tu pourras mettre le premier fils à gauche et mon deuxième fils à ta droite? Elle aimerait assurer leur bonheur et leur salut, quoi de plus compréhensible et de plus légitime pour une mère. Mais à la lumière de ce que nous venons de voir, cette attitude de chercher son petit intérêt dans sa petite sphère familiale ne passe plus. D'ailleurs, Jésus ne peut pas accéder à cette demande. Les autres disciples sont offusqués contre les deux frères. On ne va pas s'attarder sur tout ce passage, mais remarquez que cette demande donne l'occasion à Jésus d'apporter un renversement radical des valeurs. Celui qui veut être grand devant Dieu, qu'il se mette au service des autres, comme lui le fait. Marie, quant à elle, avait répondu il y a longtemps, « Je suis la servante du Seigneur ». La disponibilité, une qualité à retenir. Nous voilà à la fin de ces quelques éléments de la vie de Marie. J'espère que cela vous a donné envie d'aller un peu plus loin, de continuer la promenade pour découvrir bien d'autres choses encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette lecture que je viens de faire de type, je dirais, réformé, j'ai beau m'attacher à Marie, à la suivre de près, à me focaliser sur elle, je retombe chaque fois sur une parole de Jésus qui apporte quelque chose d'intéressant au passage. Jésus a vraiment une parole libératrice extraordinaire, et j'aimerais le souligner, qui nous fait découvrir les facettes de l'amour de Dieu. C'est toujours une bouffée d'air frais, un moment de respiration, de restauration et de révélation et d'éblouissement quand il parle. Quel Dieu merveilleux nous avons. Pour en revenir à Marie, nous avons côtoyé une femme attachante, humaine, avec ses tiraillements, d'une grande humilité. Elle n'a rien exigé, elle n'a rien demandé. Consacrée à Dieu, une mère courageuse et une femme pleine de foi. Donc, aucune raison de lui en vouloir ou de la laisser de côté. Aucune raison d'en faire une reine du ciel non plus. Mais Marie, si proche de nous, si proche de Dieu. Je vais faire un petit exercice d'imagination pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans l'Église après sa disparition. Parce qu'on ne peut pas la laisser partir comme ça. On aimerait une belle fin pour cette sainte femme. Elle pourrait ressusciter et rejoindre son fils. Elle le mérite bien, entourée de ses disciples, pas comme Jésus tout seul. Ou alors, ce ne serait pas son corps qui ressuscite, mais juste son âme qui monte au ciel. On aimerait lui faire une place plus grande dans nos vies, en la sentant si proche de nous. On pourrait l'appeler la mère des croyants, puisque nous sommes devenus une grande famille en Christ. Et mère de Dieu, puisque Jésus est dans une totale intimité avec Dieu. Si elle est mère de Dieu, il faudrait qu'elle soit pure et parfaite, donc conçue en étant préservée du péché originel. Il ne faudrait qu'elle ne pêche jamais dans sa vie, et ce sera la nouvelle Ève. Il faudrait aussi qu'elle reste vierge. Non, ces enfants qu'elle a eus avec Joseph, elle a épousé un veuf qui avait déjà des enfants. Ce sont en fait les demi-frères et les demi-sœurs de Jésus. Nuance. Et puis elle est humaine à la base, elle est femme, elle a ce côté sensible et maternel. Elle nous comprend mieux que ces trois entités masculines, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elle pourrait intercéder pour nous mieux que personne. Elle pourrait être notre médiatrice, car nous, pauvres pécheurs, nous ne sommes pas dignes de nous adresser directement à Dieu. Que de glissements, de débordements et d'excès dont Marie était l'objet au fil des siècles, à coups de récits apocryphes, de légendes dorées, de conciles, de grands débats. Elle est aussi une source d'inspiration intarissable. comme en témoigne l'énorme production artistique qui lui est consacrée, littéraire, picturale, théologique. Il y a la mariologie, iconographique, musicale, architecturale. Des ordres portent son nom. Et ceci ne laisse personne indifférent et ça questionne quand même. Pour dire brièvement quelque chose du catholicisme, c'est juste mon avis. Je dirais que si on laisse aller notre imaginaire, si l'on écoute tradition et légende, si on pense qu'on est habilité à combler les silences et les manques des évangiles, alors on parvient à un système religieux qui a prise sur Dieu. Les mystères sont sous contrôle. Ça apaise, ça rassure, mais l'esprit n'a plus de place pour souffler. Et si Marie est devenue un sujet de dévotion et de passion, ce n'est pas elle qui a contribué de son vivant. Est-ce une réminiscence des cultes rendus depuis la nuit des temps aux déesses païennes de la maternité, de la fécondité, des déesses nourricières et donneuses de vie? C'est très probable. Et l'idolâtrie éloigne de Dieu. Et je relève pour terminer un énorme paradoxe. C'est une simple femme, humble, dévouée à Dieu, qui a donné naissance au Fils de Dieu, qui, portée au nu, c'est le cas de le dire, encensée, fait ombrage au Christ et peut le décentrer de la vie des hommes. C'est quand même un comble. Je vous propose de ne pas jeter la pierre et de ne pas juger, mais de retenir cette leçon du catholicisme. Nous ne sommes pas à l'abri des faux pas, ni de la tentation, ni de l'idolâtrie. Soyons simplement vigilants. Je ne vais pas vous laisser sur cette note « balayons sur notre porte », mais retenez-la quand même, mais avec un verset dont les derniers mots résument bien la vie de Marie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. La promenade s'arrête ici. Merci pour votre attention.